Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est jeudi déjà 5 avril 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Jeudi, qui dit jeudi, dit Mathieu Tessier. Comment allez-vous, Mathieu?
Je vais très bien. Oui. Je suis comme un cheveu dans un courant d'air.
Un cheveu comme dans un courant d'air, ça veut dire quoi, ça?
Je suis comme un cheveu dans un courant d'air. En fait, j'ai perdu mes éphémérides, alors pendant que j'essaie de...
Ah, c'est pour ça que vous êtes devant votre ordinateur et que vous ne me regardez pas.
Bien, ce n'est pas pour être bête, ma chère.
Bon, est-ce que vous voulez qu'on mette ça un petit peu plus tard?
Je vais vous en nommer quelques-unes.
Quelques-unes. Une éphéméride, qu'on dit, oui. OK. Éphéméride. Je ne sais pas.
Quelques dates intéressantes.
Oui.
En fait, je pensais à date, pas. Je ne pensais pas à éphéméride nécessairement.
Oui.
Nous avons en 12-14, Jean Santerre est à Angoulême et fait mine de retourner à La Rochelle pour entraîner l'Ost de Philippe Auguste vers le sud. Donc, c'est une bataille qu'on s'imagine a eu lieu. Le lancement en 2009 du satellite de communication Audiantre. J'aurais dû regarder le nom avant. C'est un mot en coréen.
Éplez-le.
Oui, oui. Je voulais que je l'épelle, d'accord.
Ben,
c'est K-W-A-N-G-M-Y-O-N-G-S-O-N. Donc, je m'essaie. Kwam Myonsong. Voilà.
Bon, ah, ben, bravo.
Merci. Mise en place de l'Observatoire de laïcité en France en 2013. Comme vous pouvez vous rendre compte, je me promène d'une année à l'autre. Pour ce qui est des naissances, je vais passer directement aux naissances, puisqu'il y a l'air de ne pas avoir 30 de choses qui se passent ou qui se sont passées un 5 avril dans l'histoire. Nous avons Jules César Savigny, le zoologiste français, qui a fait des livres magnifiques en 1777. Nous avons aussi Pascal Paoli, était un homme politique et militaire corse, qui était né, lui, en 1725. Nous avons, mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui sont nés, semble-t-il, un 5 avril. Nous avons Walter Hudson, l'acteur américain, qui est né, lui, en 1883. Et si je remonte un peu dans le temps, en 1933, Casavon, un évêque catholique québécois. Et nous avons Roman Herzog, l'homme politique allemand en 1934. Et pour ce qui est de des décès, excusez-moi, c'est vraiment embarrassant de ma part.
Mais c'est pas grave.
Non, vous êtes bien aimable.
On peut arrêter ici.
Oui, oui.
À moins que vous en ayez un à nous mentionner maintenant.
Pour ce qui est des décès, Charlton Heston est décédé en 2008. Et voilà, je suis désolé, je vais m'arrêter ici parce que... Ben, je me cours. Ah, il y a Kurt Cobain aussi qui est décédé en 1994. Et la liste continue. Je vais regarder ce que je peux faire pour ce qui est de la musique. Mais ben voilà, c'était des effets.
Vous avez quoi, eu un problème d'ordinateur?
Oui, en fait. Et puis l'imprimante, tout s'est passé ce matin.
Bon, ça arrive hein, comme
ben,
ça. Pourtant, c'est
ça.
Pas vendredi 13, c'est
non.
Le jeudi 5.
C'est vrai, mais écoutez, je sais pas.
Oui, je vais vous dire, oui. Je m'interrogeais, est-ce qu'on dit un ou une éphéméride? Devinez.
J'ai probablement un.
Non!
Ah bon, diantre.
Féminin,
bon, ben
c'est
merci.
Pas votre journée, Mathieu.
Non,
ça va bien aller. Merci. Non, c'est moi qui s'interrogeais.
Ah, OK,
mais
pas
là,
problème.
Je vous ai fait participer au quiz et vous avez dit un.
Oui, j'ai annulé mon...
Alors, une éphéméride, une date et on y va. À la une de la presse, la pointe de l'iceberg, 50 millions ou plutôt 87 millions, dont 600 000 Canadiens. On ne saura peut-être jamais le nombre exact d'utilisateurs de Facebook dont les données personnelles ont été transmises à Cambridge Analytica de façon indue. Mais une chose est sûre, la plupart des 2 milliards de membres de Facebook doivent s'attendre à ce que leurs informations publiques soient entre les mains d'organisations diverses. La chronique de Rima El-Khoury, signe religieux au SPVM, un débat contre-productif. Caisse de dépôt et placement du Québec, boom d'embauche à la Caisse de dépôt. Sport, tournoi des maîtres, des favoris, points de suspension et Tiger. Pause repas, trouvez le sucre. Il se cache ou non, sous différents noms, découvrez lesquels. Jusqu'à hier, il n'était même pas nécessaire pour une organisation d'avoir un accès direct à la base de données de Facebook pour récolter des informations sur ses utilisateurs, a admis hier l'entreprise californienne. Facebook annonçait qu'elle supprimait la fonction qui permettait de rechercher un utilisateur à partir de son numéro de téléphone ou de son adresse courriel. Elle s'est aperçue que des gens s'en servaient pour effectuer des millions de recherches provenant de milliers d'ordinateurs différents, et ainsi avoir accès aux informations classées publiques d'à peu près tous les utilisateurs de la plateforme, ou du moins de ceux qui donnaient la permission d'être trouvés au moyen d'une telle recherche, ce qui est le réglage par défaut. Il est raisonnable de penser que si ce réglage est activé sur votre compte, quelqu'un a eu accès au cours des dernières années à vos données publiques, a résumé le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Dès lundi prochain, Facebook promet d'afficher au sommet du fil d'actualité de ses utilisateurs un lien vers ses outils permettant d'ajuster les réglages de confidentialité. Elle avisera aussi les utilisateurs dont les données ont pu tomber entre les mains de Cambridge Analytica. Des ajustements qui suscitent peu d'espoir, Facebook peut bien continuer de se servir des habitudes de ses utilisateurs pour mieux cibler la publicité, mais il doit en contrepartie renforcer ses règles de responsabilité et les étendre à tous ses partenaires, estime Vincent Gautret, titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique de l'Université de Montréal. Que Facebook dise qu'ils veulent collecter autant de données qu'avant, ça ne me dérange pas forcément, dit-il, sauf qu'ils n'ont pas le choix d'être surveillés et d'être stricts quant à la finalité de ces données. Il y a un principe de base en matière de vie privée et c'est la finalité. On ne peut pas, sans le consentement, changer la finalité de la donnée collectée. Selon lui, des organismes de type étatique, notamment, devraient scruter les acteurs comme Facebook à la manière d'un contrôleur financier, par exemple. Pour Madeleine Pastinelli, professeure titulaire au département de sociologie de l'Université Laval, spécialiste des usages de l'Internet, le scandale Facebook Cambridge Analytica n'a rien d'étonnant et démontre plutôt le décalage extraordinaire entre ce qu'est véritablement la plateforme sociale et la perception de ses utilisateurs. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser Facebook et ils ont fini par perdre de vue que ce n'est pas un service public, c'est une entreprise commerciale, explique-t-elle. L'autoroute 40 a été rouverte à la circulation automobile en direction est jeudi matin à Repentigny dans la Naudière après avoir été fermée pendant près de 20 heures, c'est dans la mise à jour de la presse. L'interdiction de circulation a été décrétée peu après 11h30 mercredi matin lorsqu'un camion remorque dont la benne était soulevée a percuté à pleine vitesse une passerelle pour piétons qui enjambe les voies rapides. La circulation vers l'ouest avait été permise quelques heures après l'accident. La benne a explosé sous le violent impact du camion avec la passerelle. Personne n'a été blessé, mais de gros morceaux de la benne se sont encastrés dans la structure et les tonnes de maïs que le camion transportait se sont répandues sur la chaussée. L'accident spectaculaire a été filmé par un automobiliste dont la vidéo a été très consultée sur les réseaux sociaux. Des ouvriers ont procédé dans la nuit de jeudi au démantèlement partiel de la passerelle piétonne. « hausse marquée des revenus déclarés industrie du taxi, l'arrivée d'Uber au Québec n'a pas réduit les recettes de l'industrie du taxi traditionnelle. Les revenus des titulaires de permis ont augmenté à partir du moment où les chauffeurs ont été obligés de permettre le paiement par carte de crédit dans leur véhicule. Les ventes ont augmenté de façon significative d'environ 20 % entre 2013 et 2016 parce que des revenus qui n'étaient pas déclarés le sont désormais. Et des estimations qui circulent au ministère des Finances indiquent qu'on peut penser qu'encore maintenant, seulement 50 % des revenus réels de taxi sont déclarés au fisc. L'arrivée d'Uber n'a pas réduit les revenus des taxis, résume-t-on, au ministère des Transports. 250 millions, somme que Québec injectera pour compenser auprès des propriétaires de taxis la perte de valeur de leur permis, selon le budget de Carlos Letao déposé la semaine dernière. Cela correspond à la moitié de la perte que disent avoir encourue les détenteurs de permis. En contrepartie, le gouvernement, dans le budget, a annoncé une autre mesure qui, annoncée seule, aurait profondément irrité les propriétaires. Le projet pilote qui permet à Uber d'offrir ses services dans la province devait prendre fin à l'automne 2018. Apparu à l'automne 2016, il avait déjà été prolongé d'un an. Cette fois, Québec prolonge de nouveau d'un an l'exercice jusqu'à l'automne 2019. Walmart Canada confirme que l'entreprise souhaite réembaucher les ex-employés des magasins de Trois-Rivières qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, rapporte Radio-Canada. Le géant du commerce de détail affirme vouloir s'assurer que tous les participants du programme qui souhaitent revenir en succursale sous les mêmes conditions qui étaient offertes auparavant puissent le faire. La semaine dernière, la décision inexpliquée de Walmart Canada de mettre fin à un programme favorisant l'intégration de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avait provoqué un tollé au Québec. La multinationale a présenté ses excuses deux jours plus tard. En Mauricie seulement, la directive de Walmart a touché une vingtaine de travailleurs. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, mythe vivant de la gauche, pourrait se retrouver prochainement derrière les barreaux après le rejet cette nuit par la Cour suprême d'une demande d'habeas corpus pour lui éviter la prison avant l'épuisement de tous les recours possibles. Une décision loin d'être unanime. La demande a été rejetée par 6 voix contre 5 à l'issue de débats qui se sont étendus 11 heures durant, à 6 mois d'une élection présidentielle pour laquelle il était donné favori. Bien que très serré, ce résultat est une victoire éclatante pour les procureurs de l'opération. Lavage Express, enquête tentaculaire qui a mis au jour un gigantesque scandale de corruption impliquant des hommes politiques de tous bords. L'icône de gauche devra purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'optation de marchés publics. L'ex-président, 2003-2010, ni farouchement, invoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de briguer un troisième mandat. Et finalement, le gouvernement français a affiché hier sa détermination à mener à bout les réformes du président Emmanuel Macron, tandis que s'achevait une première grève de 2 jours du rail, paralysante et amenée à se renouveler de manière intermittente sur 3 mois. Signe de fébrilité? Les services du premier ministre ont annoncé qu'Édouard Philippe reportait son déplacement au Mali pour rester ce week-end à Paris, laissant entendre que l'annulation était notamment liée à la grève à la SNCF, opérateur français du rail. Au deuxième jour de grève de suite, la participation est annoncée en baisse par la direction de la SNCF. Selon des chiffres contestés par les syndicats, 29,7% des employés étaient grévistes, en milieu de matinée, après 33,9% mardi. Mais les 3/4 des conducteurs restaient mobilisés. En conséquence, seul un TGV sur 7 et un train régional sur 5 en moyenne, sensiblement la même chose que mardi, circulaient hier.
J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élancent dans toutes les directions. Des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombit, des gens qui marchent funambules sur le fil téléphonique de messages contradictoires. Les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sors de ma réserve. J'espère que je ne te fais pas la morale, tu sais je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral, je raconte juste ce que je vois. Le commencement du jour est sans mémoire, il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. Espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve.
Jérôme Minière et la chanson « La vérité est une espèce menacée ».
Du devoir, avril et ses surprises. Le printemps a plié bagage mercredi, laissant place aux précipitations de neige et aux vents forts dans plusieurs régions de la province. À Québec, la visibilité était nulle par endroits, forçant la fermeture de certaines portions de route. Les Montréalais ont, eux, plutôt affronté la pluie et les mares de slush. Alors, on voit justement des gens qui marchent, habillés très chaudement avec le gros capuchon et la petite neige qui tombe. Mort et résurrection du Bloc, des dirigeants bloquistes proposent leur sortie de crise. L'histoire populaire finira-t-elle au bac à recyclage? Un manifeste demande un soutien adéquat aux services d'archives privées, gardiens de la mémoire collective des gens ordinaires. Essai, l'égo portrait comme politique internationale, Jocelyn Coulon dénonce la vacuité de la diplomatie canadienne sous Justin Trudeau. Fabien Deglise signe cet article au sujet de l'essai « Un selfie avec Justin Trudeau » publié chez Québec Amérique. Winnie Mandela. Winnie donc entre soleil et ombre, la chronique d'Odile Tremblay. Martin Luther King, la justice et la paix en héritage. Élection québécoise, le saut en politique d'une femme voilée. Des hauts placés du Bloc québécois souhaitent faire table rase et remettre à neuf le parti. Nouveau nom, nouveau programme et même un nouveau chef. L'idée serait de fonder un nouveau parti indépendantiste sur la scène fédérale qui rassemblerait tous les militants souverainistes du Québec. La proposition vient de nul autre que la présidente du Forum jeunesse du parti et ancienne proche collaboratrice de la chef. La refondation du Bloc québécois, présentée dans un document obtenu par Le Devoir, passerait par une mise à zéro de la plateforme et des statuts du parti, de même qu'une course à la chefferie de 2 mois, ce qui implique une démission de Martine Ouellette, selon les termes du manifeste préparé par Camille Goyette-Gingras. L'ancienne attachée de presse de Mme Ouellette explique avoir eu envie, avant même que ne frappe la crise qui déchire le Bloc québécois depuis 1 mois, d'ouvrir le parti aux militants du Parti québécois et de Québec solidaire pour mobiliser tous les indépendantistes sur la scène fédérale. Le conflit interne qui sévit au Bloc, c'est une occasion de le faire, d'avoir une sortie de crise structurante, mais aussi quelque chose qui nous permet d'avoir un regard enthousiasmant vers le futur, affirme-t-elle au Devoir. Avec le processus de refondation, c'est une occasion d'impliquer des gens qui ne se sentaient pas impliqués avant avec le Bloc et de retourner sur de nouvelles bases. Le lancement d'un Bloc québécois 2.0 serait entamé dès le Conseil général du 29 avril, auquel Camille Goyette-Gingras compte soumettre sa proposition en débat d'urgence. À Saint-Jérôme, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord lance aujourd'hui un manifeste pour mobiliser les Québécois afin de sauvegarder les services d'archives privés reconnus par le gouvernement mais laissés de plus en plus à eux-mêmes en matière de financement. Intitulé « Ensemble, assurons le futur de notre passé », ce texte plaide pour le maintien et la protection dans leur milieu des archives québécoises. Québec solidaire, le saut en politique d'une femme voilée. Pour la première fois de son histoire, le Québec pourrait voir une femme voilée se présenter aux élections provinciales d'octobre. La militante féministe Ève Thorez vient de déposer sa candidature à l'investiture de Québec solidaire dans la nouvelle circonscription de Montréal-Outremont. Ces derniers mois, cette mère célibataire de 3 enfants est de ceux qui ont fait pression sur le directeur général des élections pour que soit changé le règlement interdisant à une personne portant un couvre-chef de se porter candidat, ce qui fut fait. Née dans le sud de la France, Ève Thorez a grandi en banlieue parisienne avant d'émigrer au Québec il y a 20 ans. C'est ce Québec qui la passionne, qu'elle veut faire cheminer, au-delà des malaises que peut créer sa diversité. Le ministère de la Sécurité publique envisage d'agrandir et de rénover la vieille prison Tanguay évacuée il y a 2 ans après avoir été déclarée insalubre. Le réaménagement de fond en comble de la prison pour femmes fait partie des scénarios considérés par Québec, indiquent nos sources. Les 260 femmes qui étaient détenues à Tanguay ont été transférées en 2016 dans l'établissement Leclerc de Laval, une autre prison fédérale, celle-là, qui avait été fermée pour cause de vétusté. Depuis, le ministre de la Sécurité publique étudie tous les scénarios possibles pour aménager un nouveau centre de détention pour femmes dans la grande région de Montréal. Le ministère a repéré des terrains susceptibles d'accueillir une prison, mais l'endroit le mieux situé reste la vieille maison Tanguay dans l'arrondissement d'Hanticke-Cartierville au nord de Montréal. plus de 700 demandeurs d'asile auraient traversé la frontière au Québec de façon irrégulière à partir des États-Unis depuis vendredi. Ils étaient de 120 à 150 à passer quotidiennement du côté canadien durant les 4 jours de la fin de semaine de Pâques, assure Jean-Pierre Fortin, président national du syndicat des douanes et de l'immigration. Contrairement aux Haïtiens arrivés massivement à la frontière l'été dernier, ces demandeurs d'asile sont en grande partie originaires du Nigeria et ne feraient pas l'objet d'une menace de révocation d'un statut temporaire aux États-Unis, disant aussi s'attendre à l'arrivée de Salvadoriens au cours des prochaines semaines ou prochains mois. M. Fortin a soutenu que les services frontaliers n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Le premier ministre Justin Trudeau a pourtant affirmé que le système d'immigration canadien demeurait robuste et sécuritaire. Alors que plane la menace d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la ministre canadienne des Affaires étrangères craint que l'ordre économique mondial mis en place après la Deuxième Guerre ne soit sérieusement en péril. Alors qu'elle participait à un panel à Winnipeg mercredi, Chrystia Freeland a estimé que cet ordre économique mondial que le Canada a contribué à établir subit actuellement sa plus grande menace depuis près de 75 ans. La ministre Freeland a d'ailleurs indiqué qu'elle sera à Washington jeudi pour rencontrer le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, dans le cadre de la négociation pour un nouvel accord de libre-échange nord-américain. Et pour terminer, en ce qui concerne cette nouvelle, Mme Freeland soutient que ces altercations entre la Chine et les États-Unis menacent un ordre économique qui a établi les bases de sociétés prospères et en paix après la Deuxième Guerre mondiale. Restez avec nous, l'émission Le quotidien des quotidiens se poursuit après la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal et la tournée des journaux régionaux.
C'était dit. Dans le poste, il y avait un Jackson. Just can't stop loving you. Elle et moi, jouait du klaxon. Qu'est-ce qu'on était dans le coup? Elle roulait bien, notre Ferrari. C'était pas rien, on était bien partis. Ouais. C'est grave comme c'est bien quand on se marie. Ça, je m'en souviens parce qu'on s'était dit. Je pensais que c'était pour la vie. Marine, c'était pas pour le film. Qu'on était à l'autre bout du globe. Que je t'avais enfilé cette robe. C'était pas pour faire snob. C'était pas pour la frime. Moi j'étais in love. Moi j'étais in love. Moi j'étais in love. Bienvenue César Palace, au bord de la piscine. Pour la fête, y'a pas meilleure place. C'était dans le magazine. Des magiciens, des confettis, des musiciens qui jouent du funky. C'est grave comme c'est bien quand on se marie. Ça, je m'en souviens, c'est ce qu'on s'était dit. Je pensais que c'était pour la vie. Moi je pensais que c'était pour la vie. Marine, c'était pas pour la frime. Qu'on avait 8 heures de jet lag. Que je t'avais enfilé cette bague. C'était pas pour la blague. C'était pas pour le gag. Moi j'étais in love.
Mathieu Bogert, sa chanson Las Vegas.
À la une du Journal de Montréal de ce jeudi 5 avril 2018, les futurs profs se font rares, des centaines d'étudiants en enseignement de moins qu'il y a 5 ans. Le journal au Masters Tiger Woods parmi les favoris. Hydro-Québec, 152 millions de surtemps en 2017, la chronique de Michel Girard, les sociétés d'État rapportent moins. Le festival du surtemps se poursuit chez Hydro-Québec. Les données fournies par Hydro-Québec indiquent que la facture du temps supplémentaire a bondi de 20 millions de dollars en 2017, en hausse de 15 % sur un an. En 2016, la facture du surtemps avait atteint les 132 millions, comparativement à 131 millions de dollars en 2015. Mis à part les cadres de l'entreprise, le travailleur le mieux payé chez Hydro-Québec s'est avéré encore cette année un répartiteur du centre de contrôle du réseau de transport d'électricité situé à Montréal. Ce répartiteur a accumulé un salaire total de 374 082 dont 234 418 $ en surtemps et en primes diverses. Au total, la dizaine de répartiteurs de ce centre ont encaissé au moins 1,3 million en surtemps et en primes diverses. Selon Hydro-Québec, un manque de répartiteurs causé par des départs à la retraite a occasionné une surcharge importante de travail dans ce lieu jugé stratégique depuis 2 ans. Certains répartiteurs peuvent travailler jusqu'à 16 heures par jour dans ce centre en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le temps supplémentaire est une préoccupation importante de la haute direction. C'est d'ailleurs l'un des enjeux qui sera abordé lors des négociations pour le renouvellement des conventions collectives. Moins de futurs enseignants, le nombre de futurs enseignants dans les universités du Québec est à son plus bas depuis 5 ans. Une tendance dramatique qui fait craindre le pire pour l'avenir des écoles qui sont déjà en pénurie de personnel. C'est sûr que quand tout ce qu'on entend, c'est à quel point les enseignants ne sont pas bons et les écoles pas bonnes, ça n'aide pas, dit Roxane Gaudreau de l'Association des étudiants en éducation de l'Université de Sherbrooke. On ne nous donne pas les ressources nécessaires pour bien faire notre travail. C'est ça qui fait peur, dit Gabrielle Bouchard, finissante en enseignement au secondaire à l'UQAM. Ça ne me dérange pas d'avoir à faire de la planification de cours, mais ne me paie pas 32 heures par semaine si tu sais que j'en fais 45, illustre Emmanuelle Boisvert, étudiante en enseignement préscolaire et primaire à l'UQAM. C'est dramatique. Ça fait 10 ans qu'on parle de l'importance de valoriser la profession enseignante et on ne nous a pas pris au sérieux, dit José Scalabrini, de la Fédération des syndicats enseignants qui représente 65 000 profs. On est en situation d'urgence, dit Lorraine Normand-Charbonneau de la Fédération québécoise des directions d'établissement. C'est quoi le plan? Est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère de l'Éducation qui y pense? S'impatiente-t-elle? Questionnée par le journal, le ministère rappelle qu'un chantier sur la valorisation de la profession enseignante a été mis sur pied. François Legault veut faire du port des signes religieux chez les agents de police un enjeu électoral. Les gens auront le choix le 1er octobre. S'ils veulent que les personnes en autorité comme les policiers et policières portent des signes religieux, ils voteront pour le Parti libéral. S'ils sont contre, ils pourront voter pour la coalition Avenir Québec, a soutenu hier le chef caquiste de passage à Shawinigan. Usines d'épuration polluante. 25 des 31 usines d'épuration des eaux usées situées dans le secteur de la rivière Richelieu sur la rive sud polluent l'environnement et menacent l'eau potable de la Montérégie. Seulement 6 usines n'ont pas besoin d'améliorer leur performance d'assainissement, révèle un rapport de la Fondation Rivière rendu public aujourd'hui et dont le journal a obtenu copie. Le document concerne les usines du bassin versant de la rivière Richelieu, où vivent près d'un demi-million de personnes entre La Colle et Sorel-Tracy. En raison de leur piètre état, les usines de la région ont déversé des eaux usées non traitées 4796 fois dans la nature en 2016, a calculé l'organisme. Depuis, très peu de travaux correctifs ont été faits. Pour Environnement Canada, les contaminants ainsi rejetés sont des menaces pour la santé humaine, car même les systèmes de traitement sophistiqués ne sont pas toujours capables de les retirer. Les installations doivent être inspectées. C'est au ministère de l'Environnement de faire la police, lance le président de la Fondation. Insatisfaits des explications du gouvernement Trudeau, trois sénateurs conservateurs canadiens se sont rendus dans la capitale des États-Unis hier afin d'étudier les conséquences de la légalisation du cannabis sur les voyageurs à la frontière américaine. Les sénateurs Claude Carignan, Pierre-Hugues Boisvenu et Denis Batters se sont entretenus avec de hauts fonctionnaires du département de la sécurité intérieure et du bureau des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières. Nous sommes allés à Washington pour trouver des réponses claires aux questions des travailleurs et des touristes canadiens qui traversent les frontières. Devant les réponses vides de contenu et la cassette des libéraux, il fallait aller chercher des faits concrets et véridiques à la source, a déclaré le sénateur Boisvenu par communiqué. L'Agence du revenu du Canada, ARC, le plus gros ministère fédéral, dit avoir trouvé une solution de rechange au controversé système de paye Phoenix qui pourrit la vie de dizaines de milliers de fonctionnaires depuis 2 ans. C'est du moins ce que prétend un des syndicats qui représente une bonne partie des 40 000 employés du ministère. Des analyses auraient démontré que l'ARC pourrait se débarrasser de Phoenix dans 6 à 9 mois. L'ARC, donc l'Agence du revenu du Canada, fait des calculs de masse salariale toutes les 2 semaines et pourrait étendre cette pratique à l'ensemble de son personnel, a insisté le syndicat. Ainsi, toutes les erreurs de calcul de paye de Phoenix qui accablent les employés de l'ARC depuis 2 ans seraient éliminées. Montréal augmentera l'offre de vélos en libre-service Bixi dans plus d'arrondissements l'an prochain. On a l'intention d'élargir la zone de desserte pour s'assurer que les coins où les gens sont moins bien desservis puissent justement en faire l'expérience et profiter de ce service-là, a expliqué hier la mairesse Valérie Plante. Pour l'instant, aucun secteur n'a été identifié par la métropole, ni le nombre de futurs vélos et stations. Premier accouchement d'un père transgenre, homme pour l'État civil, un Finlandais né femme est devenu le premier transgenre du pays à accoucher, ont rapporté hier les médias locaux. Un événement d'autant plus exceptionnel que la loi finlandaise exige d'être stérile pour changer de sexe. L'homme d'une trentaine d'années, dont l'identité n'a pas été révélée, a légalement changé de sexe en 2015 après des années de traitement à la testostérone. Mais il avait décidé d'annuler la chirurgie de changement de sexe censée achever sa transition physique avant d'essayer d'avoir un enfant avec son mari. En vertu de la loi finlandaise, une personne est tenue de prouver qu'elle est stérile afin de changer légalement de sexe. Dans la pratique, les centres de soins considèrent que leurs patients transgenres sont de facto rendus stériles lorsqu'ils ont subi un long traitement à la testostérone. Mais si l'hormonothérapie est suspendue, la personne peut être de nouveau fertile, comme c'est le cas avec cette naissance exceptionnelle.
Quand Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin, que c'est bien, oh que c'est bien, de voir Monsieur Gobeil quand je reviens de gagner ma vie, que c'est bien, que c'est bien. Travaille sur chiffre de nuit. Quand Monsieur Gobeil dit bonjour à sa femme, que c'est bien, que c'est bien, de voir nos fenêtres se fermer ensemble. On peut faire l'amour en arrivant ou avant de s'en aller. Je t'aime. Je t'aime. Quand Monsieur Gobeil attend Monsieur Blot le matin, que c'est bien, que c'est bien, de les voir sourire et partir ensemble. On devrait s'aimer en arrivant et avant de s'en aller. Travaille sous chiffre de nuit. Quand Monsieur Gobeil ferme un œil au fond de son fauteuil, que c'est bien, que c'est bien, de voir le soleil penser la même chose. On peut pas tous prendre le même métro, mais on peut penser pareil. Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin. Quand Monsieur Gobeil dit bonjour à sa femme, que c'est beau, que c'est beau.
Bonjour, Monsieur Gobeil.
Une autre chanson dans la catégorie qu'on en prendrait, on en prendrait. C'était Monsieur Gobeil, Jean-Pierre Ferland.
Les journaux régionaux, François Roy du Bongo, c'est la chronique dans le quotidien de Joël Martel. Il était souvent là sur la scène, souvent un peu en retrait, jamais sous le spotlight, mais on pouvait entendre ses bongos et ses percussions, et même s'il était légèrement dans la pénombre, on pouvait voir briller son regard à la fois solennel et amusé. Ici, je serais de mauvaise foi d'oser prétendre que je le connaissais très bien, mais j'oserais quand même dire que c'était un ami. En donnant des coups sur son bongo, François contribuait à sa manière à faire battre le cœur de la scène culturelle régionale. On le voyait souvent se pointer le bout du nez, même dans les concerts à des endroits improbables. Visiblement, ce n'était pas un truc qui semblait grandement le déranger. Et puis hop, quand c'était vous qui aviez occupé la scène ce soir-là, c'était toujours très cool de le voir s'approcher lentement vers vous et l'entendre dire avec sa voix douce et grave « C'était ben bon, on sent que vous avez du fun ». D'ailleurs, je me limite à vous dire ce que moi je savais de lui, mais je me souviens aussi qu'il était souvent du genre à s'impliquer dans de nombreux trucs pour la justice sociale. Je sais aussi qu'il était un père et un amoureux, et évidemment l'ami de bien des amis et amis. Maintenant, j'imagine que vous avez tout pigé depuis un bon moment, mais bon, François est décédé. Je l'ai appris à la sauce 21e siècle, c'est-à-dire entre un statut rigolo et la nouvelle photo de profil Facebook d'un ami. Voici une blague. Voici ma nouvelle photo et hop, en passant, François, il est mort. Et voici une publication commanditée, une photo de mon chien. Alors voilà, je voulais qu'il existe encore un peu, ici, dans ces lignes. À plus, roi du bongo. Puisqu'on parle de ceux qui s'en vont, la semaine dernière, je vous racontais l'histoire de Roméo, ce chat orange qui mettait de la vie dans le quartier et qui laisse maintenant orphelin tous les rebords de fenêtres du voisinage. Tout d'abord, je tenais à remercier les lecteurs et les lectrices qui m'ont fait part de leurs histoires à eux concernant la disparition d'un animal. Certes, c'est un sujet qui peut sembler bien anodin, mais pour ceux et celles qui ont partagé un moment de leur vie avec ces animaux, elle signifie toute quelque chose qui va bien au-delà de la simple anecdote. Mais bon, ce n'est pas du tout là que je souhaitais en venir avec tout ça. Le truc, c'est qu'en faisant plus ample connaissance avec Michel, le maître de feu Roméo, ça m'a fait prendre conscience à quel point on vivait trop souvent chacun dans notre bulle. D'ailleurs, la dernière fois où l'ami Jude m'avait rendu visite ici pour venir me prêter une pile de magazines tous plus intéressants que l'autre, il m'avait parlé de son fils qui vivait à Montréal tout en me disant « Personne ne se connaît là-bas. Mon gars reste là depuis quelques années et il ignore le nom de ses voisins. Moi, à la fin de la journée où je suis arrivée chez lui, je savais déjà tout ça. Puis, voyant que son histoire m'amusait, il m'avait défié en me disant « Puis toi, le sais-tu comment que tes voisins s'appellent? » C'est plutôt choquant, car 2 ans avant cela, j'aurais pu fièrement répondre par un oui, bien assuré. Mais depuis que Mme Pauline et M. Hubert sont partis, je n'ai aucune idée de qui sont mes nouveaux voisins. À noter qu'ici, j'emploie « nouveau » pour m'apaiser la conscience, car ça fait quand même 2 étés qu'on vit à quelques mètres de distance seulement. C'est con, parce qu'avec ma mauvaise mémoire des visages, je pourrais très bien croiser mon nouveau voisin à l'épicerie et ignorer complètement que c'est lui. Il faut quand même savoir qu'à l'arrivée des nouveaux voisins, on avait tenté une première approche, mais comme ils étaient débordés dans leur aménagement, nous n'avions finalement pas eu la chance de leur parler, puis hop, 2 ans se sont passés. Ça va vite, la vie. Pas grave, je demanderai à Cédric, notre plus nouveau voisin, de s'occuper des présentations, un de ces 4. Dans le droit, Patrick Duquette, incursion chez les francs-maçons. Oui, les francs-maçons existent toujours, ils sont parmi nous. La société réputée secrète qui a pour emblème l'équerre et le compas compte quelques centaines d'adeptes à Gatineau. La confrérie comprend des médecins, des avocats, au moins un journaliste, de même que des politiciens. Ils ont des signes et des mots de passe secrets pour se reconnaître entre eux. Certains sont discrets sur leur allégeance. D'autres, comme le conseiller municipal Mike Dugan, ne cachent pas leur appartenance à une organisation dont les racines remontent à la construction des premières cathédrales en Europe. Certains romanciers, de même que l'Église catholique, ont fait la vie dure à la franc-maçonnerie dont ils ont mis en évidence le caractère occulte et les rituels secrets. Mais l'organisation elle-même affirme qu'elle n'a rien à cacher et se réclame d'une plus grande transparence depuis quelques années. Nous ne sommes pas un organisme à craindre, affirme André Boivin, grand maître des francs-maçons du Québec. Nous sommes discrets, mais nous n'avons rien à cacher. Tout sur la franc-maçonnerie est maintenant disponible sur Internet. Les francs-maçons sont revenus dans l'actualité malgré eux la semaine dernière. Un juge de la Cour supérieure a renouvelé l'exemption de taxes municipales dont bénéficiait la King Solomon Temple Corporation sur son bâtiment du 767-767 chemin Elmer. Le juge s'étonnait d'ailleurs que cette confrérie, plus que centenaire, soit encore vivante, tout en précisant qu'il n'en faisait pas partie. La décision du tribunal a fait jaser. Mais si on les avait imposé 8 000 $ de taxes par année, on fermait les portes. Toute une organisation qui essaie d'améliorer le sort du monde se serait retrouvée sans lieu de rassemblement, dit André Boivin. À l'intérieur du bâtiment, la loge maçonnique semble surgir d'une autre époque avec ses murs bleus et ses vieux meubles en bois poli. Le regard est attiré vers l'autel, au centre de la pièce qui repose sur un carrelage aux allures d'échiquier. C'est sur cet autel qu'on pose la Bible, le Coran ou la Torah selon la religion des adeptes présents. À l'exception des athées, les gens de toute confession sont admis dans le temple maçonnique du chemin d'Elmer. Ce qu'on demande aux gens, c'est de croire en une force supérieure, que ce soit Dieu ou Dame Nature. Seuls les athées ne sont pas acceptés, dit Robert Dupel, un ex-technicien en scène de crime qui a joint le mouvement en 2003. Une photo de la reine d'Angleterre est affichée au mur. C'est pour dire que les francs-maçons respectent le chef du pays où ils exercent leurs activités. Poursuit M. Dupel. Dans un coin, un coffre à outils est posé. Il renferme l'équerre et le compas, mais aussi tous les outils traditionnels du maçon. Ils servent lors des discussions. L'objectif des rencontres est d'échanger sur la morale, la philosophie et l'histoire des francs-maçons. Notre but est d'admettre de bons hommes et, par nos enseignements moraux, de les rendre meilleurs, reprend André Boivin. Les francs-maçons se défendent bien de faire de la politique comme l'ordre de Jacques Cartier qui tentait de placer ses adeptes au sein des institutions afin d'influencer les politiques francophiles. On n'a rien à voir avec la politique. D'ailleurs, il est interdit de parler de politique et de religion dans nos rencontres pour ne pas faire de chicane, explique M. Boivin. Gatineau compterait environ 330 francs-maçons, surtout des hommes, répartis en 8 groupes, plus ou moins avancés dans la hiérarchie franc-maçonnique. L'organisation a la réputation d'être un boys club, mais il y a un groupe mixte à Elmer. Par le passé, la franc-maçonnerie a fui toute publicité. Plutôt que de répondre aux critiques, elle a préféré se taire et laisser braire. De toute manière, elle avait souvent l'impression que tout ce qu'elle disait finissait par se retourner contre elle, explique André Boivin. Depuis quelques années, le mouvement ouvre davantage ses portes. On découvre une confrérie qui fait comme bien d'autres dans l'œuvre caritative. Les francs-maçons de Gatineau versent chaque année des milliers de dollars à des organismes de la région. Ils font aussi face à des difficultés de recrutement. « On n'a pas de relève », déplore M. Boivin, un problème amplifié du fait que la sollicitation de nouveaux membres leur est interdite. Dans le soleil, Yann Bussière, les 2/3 des membres des Voltigeurs de Québec n'ont jamais mis les pieds à l'intérieur de l'ancien manège militaire détruit par les flammes dans la nuit du 4 au 5 avril 2008. Mais pour le tiers, qui faisait déjà partie du régiment il y a une décennie, cette nuit restera à jamais gravée dans leur esprit alors que l'édifice patrimonial enfin rebâti s'apprête à rouvrir ses portes le 12 mai. Comme plusieurs Voltigeurs, j'étais tout juste de retour d'une mission en Afghanistan. J'étais chez moi à la pointe de Sainte-Foy et j'ai reçu un texto de mon frère comme quoi quelque chose se passait en Haute-Ville. « Manège feu », se souvient le lieutenant-colonel Jonathan Chouinard, devenu depuis le commandant du régiment des Voltigeurs. Tous les Voltigeurs qui étaient à Québec s'étaient spontanément déplacés vers la Haute-Ville quand ils avaient appris la nouvelle, se souvient-il. Les soldats n'ont alors pu que constater que les pompiers étaient déjà en mode défensif face à un élément destructeur qui avait envahi rapidement le bâtiment érigé en 1887. Le lieutenant-colonel Chouinard raconte comment lui et ses confrères sont reconnaissants envers 3 voltigeurs qui, avec l'autorisation des pompiers, sont entrés à l'intérieur de l'édifice en flammes pour amener les symboles de l'unité. Les symboles d'une unité comme la nôtre sont les clairons et tambours. Ils étaient au 3e étage dans l'aile est. Les pompiers ont accepté d'escorter les militaires qui sont montés au 3e, ont défoncé la vitre et sont ressortis avec les clairons et tambours quelques minutes avant que que le plafond ne s'effondre. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. À venir, les actualités culturelles. Restez avec nous.